Voici un peu du mouvement au Café Oriental. J'ai réussi totalement cette
équipe. Voici Céline de Combatie au Bacanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre émission d'échange citoyen selon la commission tarifaire de la Direction Générale des Douanes et Affaires, DGDA. Il faut revoir le taux de droit de taxe à l'importation de Soumagri pour protéger l'industrie locale. D'ailleurs, Guisa Maguera, directeur général de la DGDA, souligne qu'il va falloir prendre ces mesures pour permettre à l'industrie locale de faire face à la concurrence dont elle est victime du fait de l'entrée massif du ciment gris importé notamment de l'Angola par le poste frontalier de Lupu au Congo central. Certains observateurs estiment que cette affaire relance donc les débats sur la problématique de la libéralisation de l'économie et qualifie d'inopportune la proposition de la Commission. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Julie Pézabongande est au standard. Jérémy Niagassa à la mise en onde. Giro et la mise en réalisation de ce programme coordonné et présenté par Gilles Longuembo sous la supervision de Martin Sebojani. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Dans sa livraison de ce jour, le journal L'Avenir note que de la primature où s'est tenue hier la 22e réunion de l'exercice 2016 consacrée au suivi de la situation économique, financière et sociale du pays, il est envisagé une suspension momentanée de l'importation du ciment gris. Comme pour dire, c'est déjà la réponse à cette commission tarifaire. Et ce qui concerne donc les produits concernés, notamment des barres de fer et des sucres, et ajouté à cela, le ciment gris. Et c'est pour protéger l'industrie locale, très concurrencée ces derniers temps par les importations en provenance de l'Angola, et qui des fois entrent sur le sol congolais sans payer aucune taxe. Nous restons en ligne, donc nous accueillons en ligne Jean-Pierre qui est à Wamba. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Jean-Pierre, vous avez suivi l'actualité comme nous, et quel est votre avis par rapport à cette thématique?
Je pense que les problèmes n'est pas sur les structures des prix. Ce qu'on doit d'abord faire, nous avons un ministère de l'économie et qu'on doit d'abord interpeller le ministre pour qu'il puisse revoir ensemble avec les comités de gestion de la silo les structures des prix. Des ciments, peut-être, et ça pourrait arriver qu'il y a des taxes qu'on peut soit éloigner, qu'on sort, et ne pas dire qu'on puisse pas importer donc les ciments qui va venir, ce qui fait de l'Angola. Parce que je pense que nous sommes donc dans une zone, bon, donc dans la mondialisation où, pour être donc, dans les marchés, nous devons être compétitifs et conquérir, et non commencer à bloquer donc, les portefeuilles de ciment qui vont encore jouer à des faveurs du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, les ciments du silo coûtent moins cher que les cédrés. Non, les ciments qui viennent de l'Angola coûtent moins cher que les ciments qui sont produits, par exemple, ici au niveau des silos. Et donc, c'est ça, c'est vraiment normal. Ce que nous devons faire, c'est d'abord interpeller les ministres de l'économie pour qu'ils puissent revoir ensemble avec les comités de gestion de la silo les structures des prix. Ça pourrait arriver qu'il y a trop de taxes que les silos payent, et c'est ce qui ne fait pas que la cimenterie ne puisse pas être compétitive face à d'autres consommateurs. Et que la décision de l'EFIDA, là vraiment ça va jouer en défaveur. Et la meilleure solution, c'est soit renforcer aussi la capacité
Mais Jean-Pierre, je crois que les acteurs concernés dans cette affaire ne font que respecter le principe de l'économie.
Non, les protectionnismes, mais ça serait un protectionnisme suicidaire, parce que ça va jouer à des faveurs des consommateurs. Aujourd'hui, les sacs de ciment peuvent revenir à 10 000, à 10 dollars, presque à 10 dollars, les ciments qui viennent de l'Angola. Et les ciments des silos coûtent plus cher. Pour protéger, il y a plusieurs façons pour qu'on puisse protéger l'industrie. Mm-hmm. C'est pas seulement en décourageant l'importation, non. Nous devons aussi renforcer notre production locale. Soit là, ça demande l'intervention de l'État. C'est l'État qui va intervenir, soit en subventionnant, soit en renforçant les capacités. Donc, il n'y a pas de dire que non, qu'on puisse pas importer les ciments, non. C'est que nous ne sommes pas dans la mondialisation, que nous puissions alors rester donc, dans notre économie traditionnelle, donc, dans notre économie de caisse. Et que si nous voulons entrer dans la mondialisation, nous devons être compétitifs et non être plaintifs.
Mais alors, mais la crainte aujourd'hui réside au niveau de la fraude qui se fait au niveau de la frontière. Aujourd'hui, il y a des produits qui échappent au contrôle de la fiscalité.
Mais je pense que donc, nous avons des services de contrôle au niveau de la douane, et la fraude est là, c'est alimenté par qui le font. Et qui alimente ça, et qui facilite donc, ces fraudes. Ça revient encore à l'État. Et je pense que les fraudes, là, il y a un service de sécurité, nous avons des services de renseignement, nous avons des services de contrôle au niveau des douanes, et qui dit qu'il y a la fraude, mais qui, maintenant, qui doit qui assurer les contrôles des douanes. Et que ce sont les commerçants, et ce sont les consommateurs. Non, nous ne devons pas continuer à faire peser l'irresponsabilité de notre gouvernement à la population. Là, ça revient à l'État. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de la primauté de l'État, c'est que c'est l'État qui dirige la politique économique, la politique fiscale et consorts. Ça, ce n'est pas à dire que non, on puisse laisser les consommateurs subir l'irresponsabilité de notre gouvernement.
Alors, pour vous libérer, Jean-Pierre, est-ce que vous estimez, comme les autres, que cette affaire relance notamment les débats sur la problématique de la libéralisation de l'économie congolaise aujourd'hui, et qui bat encore de l'aile?
Oui, nous devons, en tout cas, moi je suis pour qu'on puisse libéraliser l'économie, parce que le fait qu'on puisse laisser l'État qui devient de plus en plus faible, qui ne sait pas, qui n'est pas capable de renforcer les entreprises, les petites entreprises, les sociétés nationales, donc, pour qu'on puisse être compétitif au niveau sur le plan national, c'est ça le problème. Et que les marchés, le monde est en train d'évoluer. Nous sommes à pleine mondialisation. Nous ne devons pas subir seulement les effets de la mondialisation. Nous devons participer à la mondialisation. Et pour que nous puissions participer à la mondialisation, nous devons produire, renforcer nos capacités de production, nous devons renforcer notre sécurité, nous devons renforcer les frontières. Ça revient à l'État. Ce n'est pas laisser que la population puisse se prendre en charge pour la sécurité, que la population puisse se prendre en charge pour le contrôle des frontières. Mais ça, c'est irresponsable. Ça.
Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir appelé de Wamba. Mais à notre niveau, on aimerait quand même savoir comment vous vous approvisionnez, notamment en matière, en ciment gris. Quand il s'agit, par exemple, de besoins de construction au niveau du Wamba, je crois que c'est dans le Bas-Uélé.
Donc c'est impossible, parce qu'un sac de ciment aujourd'hui à Wamba c'est à 35 dollars. Ça, donc, tu peux t'imaginer. Et puis pour trouver ça, c'est vraiment impossible. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de c'est un semblant de route qui pour qu'on puisse faire quitter le ciment à Beni, c'est à 15 dollars. Mais pour que le même ciment puisse arriver à Wamba, je ne sais pas si c'est par quel mécanisme. Les sacs de ciment à Wamba c'est plus de presque 35 dollars. Et puis c'est introuvable aussi.
Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir apporté ce témoignage par rapport à cette émission. Pour vous estimez qu'il s'agit là d'un protectionnisme suicidaire, au lieu que le gouvernement s'adonne à renforcer la production locale, c'est là qui pourrait donner un résultat escompté. Bon, prendre une telle décision, c'est là, favorisera pas un bon climat des affaires. Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, Jeff Mbembo. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Vous avez la parole, Adrien. Est-ce que vous parlez comme Jean-Pierre, qu'il s'agit là d'un protectionnisme suicidaire?
Oui, je suis d'accord avec Jean-Pierre, parce que je me suis dit que nos amis sont allés vite en besogne. Il serait mieux de se poser d'abord des questions, à chercher à savoir qu'est-ce qui fait que donc le ciment importé est moins cher par rapport à notre ciment de la Gifo. Là, c'est ce que vous suivez. Le responsable de la cimenterie de Moukala, ils ne mettent pas sur une même longueur d'onde que la décision prise. Cette décision, non seulement elle est suicidaire, mais elle est aussi impopulaire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a certains éléments qui font à ce que le ciment gris donc, de la Gifo soit vraiment plus cher. Et c'est là que vous voulez des faits pour commencer et à anéantir ces actes extrêmes qui font à ce que le ciment soit un prix de fer. Je vous en prie. Je me dis que...
Adrien, s'il vous plaît, parce qu'on a du mal vraiment à comprendre de quoi vous parlez, parce que votre ligne connaît un peu quelques perturbations. Vous sortez vraiment très coupé, il y a des micro-coupures, on ne sait pas suivre de près votre intervention. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déplacer un tout petit peu, ou peut-être changer de position, là où vous êtes, si c'est vraiment en dessous de béton, peut-être vous déplacer. Adrien, ça va?
Ça va maintenant.
Oui, allez-y, on va essayer.
Oui, je dirais que le gouvernement ne devait pas d'abord, donc nos amis ne devaient pas d'abord prendre cette décision que je qualifie qu'elle est un peu prématurée. Hein. Il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait à ce que le ciment importé est moins cher que le ciment produit dans notre propre pays par la cimenterie. Et puis, lorsque je me rappelle du débat qui s'est lancé peut-être la semaine passée, mais vous allez vous rendre compte que les responsables de la cimenterie de Lukala estiment qu'il y a beaucoup de taxes qui font à ce que ce ciment-là soit plus cher. C'est comme ça que moi je me dis, est-ce que le gouvernement congolais ne devrait-il pas commencer d'abord par supprimer certaines taxes vis-à-vis de cette cimenterie, parce qu'à un certain moment, elle était en difficulté, la cimenterie, pour s'approvisionner et pour fabriquer ce ciment-là. Il faut d'abord commencer par supprimer ces taxes-là qui font à ce que la cimenterie ne puisse pas bien fonctionner. C'est de un. De deux maintenant, pour revenir maintenant, je me dis, mais où est-ce qu'on veut quand même ramener cette histoire-là? Est-ce que c'est la concurrence que nos amis-là ont peur, ou bien c'est quoi? Parce que dans chaque domaine, nous disons, pour qu'une entreprise puisse bien accroître, il faut qu'il y ait une concurrence, ce que nous appelons une concurrence loyale, parce que notre déloyal, parce que l'autre, nous prenons même les ciments qui viennent d'ailleurs. Ce sont un prix raisonnable. Ici, à Kananga, peut-être c'est le problème de transport, parce qu'un sac de ciment à partir du Lebo se négocie à 20 voire 25 dollars. Arrivé ici à Kananga, le même sac se négocie à 30 à 35 dollars. Et on vous dit que c'est le problème de transport. Maintenant, et ce ciment-là, et c'est toujours le ciment de la cimenterie qui est plus utilisé ici à Kananga, au Kasai, que le ciment importé. Maintenant, nous nous posons la question. Lorsqu'on interdit donc l'importation de ces ciments-là qui viennent d'ailleurs, est-ce que n'est-ce pas là créer un problème au lieu d'apporter la solution sur la pénurie des gens qui se posent en cette matière? C'est comme ça que nous, ici, nous estimons que la moindre des choses, c'était d'analyser froidement cette question et comprendre ce qui empêche la cimenterie, non seulement de fixer un prix raisonnable pour permettre à la population de s'approvisionner, mais aussi de voir ce qui bloque à ce que la cimenterie ne puisse pas bien décoller.
Merci beaucoup, Adrien, d'avoir appelé de Kananga. On va prendre Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Voilà, moi j'interviens justement pour dire que si le gouvernement pense de cette manière-là, ce n'est pas une mauvaise chose, mais en principe, on doit tenir compte de ceux qui sont à l'intérieur du pays. Moi, je me rappelle, je prendrais Kisangani, par exemple. Je suis arrivé là en 2013, les sacs de ciment revenaient à 36 dollars américains. Aujourd'hui, avec la libéralisation, le ciment revient à 13-14 dollars. Est-ce que c'est mauvais pour les populations? Pourquoi les ciments produits sur le plan local coûtent cher que les ciments qui viennent d'ailleurs? Est-ce que c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, notamment en ce qui concerne la politique du gouvernement vis-à-vis de ces industries? En principe, le ciment ne se transporte pas. Vous avez vu que mon prédécesseur a dit que les transports coûtent cher, les ciments qu'on achèterait quelque part à 25, quand ça arrive là-bas, c'est à 30. Mais attends, là, les gens vont construire comment? On devrait, en principe, encourager les industries un peu partout de la cimenterie à travers les pays. Si on ne peut pas les faire, il faut ouvrir maintenant la concurrence. Il faut ouvrir, faire en sorte que les ciments nous viennent d'ailleurs et sur le plan local, le gouvernement peut procéder à baisser ou bien à supprimer certaines, je ne sais pas moi, taxes qu'on fait payer aux industries locales. Et comme ça, là, ils feront face à certains coûts et ils donneront le ciment à moindre coût pour permettre à tout le monde de pouvoir construire. Mais dire que non, on doit, revoir à la hausse les taxes pour protéger l'industrie locale. Mais non, ça, on est en train de pénaliser le peuple congolais. Si on tient vraiment à ce que ce peuple-là puisse vivre, ne fût-ce que avoir quelque chose pour construire une maison digne de soi et éviter certaines catastrophes que nous connaissons pendant les grandes pluies ici, la moindre des choses serait de laisser ces gens continuer à importer pour donner la chance à tout le monde de pouvoir avoir le moyen de pouvoir construire une maison décente. Voilà, c'est ça ma conclusion.
Merci beaucoup Maurice. Pour vous, cette affaire relance le débat sur l'état des lieux des initiatives relatives à la construction des cimenteries locales à travers le pays, initiative du gouvernement congolais, vous vous souviendrez, avec Pompo, on avait annoncé ici, même sur les ondes de Radio Capi, nous avons pu faire autant d'émissions sur la cimenterie de Kisangani, qui a fait couler beaucoup d'encre et même qui a suscité des débats au niveau du Parlement, et qui, en fait, a nécessité donc la présence d'ailleurs de ministres honoraires de l'industrie. À participer à ce débat au niveau du Parlement pour apporter des éclairages quant à ce. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai, vous relancez encore les débats pour savoir que la solution pour en fait concurrencer ces produits qui proviennent de l'extérieur ou de l'étranger ne serait-ce que dans le renforcement de la production locale. Merci beaucoup, Maurice. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous avons depuis les États-Unis notre invité, Michel Sommoy. Michel Sommoy, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, JR.
Vous venez de
bonjour
suivre...
à tous les auditeurs de Locapi.
Voilà, vous venez de suivre les auditeurs qui ont participé donc dans cette première série en rapport avec la dernière réunion de la commission tarifaire de la Direction générale des douanes et accises, DGDA, qui estime qu'il faut revoir le taux de droit de taxe à l'importation des ciments gris pour protéger l'industrie locale. Mais entre-temps, déjà hier, la réunion de la Troïka a pris, entre autres, décision donc de vouloir alléger, donc suspendre momentanément l'importation du ciment gris et des barres de fer et du sucre. Quel commentaire portez-vous par rapport à ça?
D'abord, j'aimerais dire qu'il est quand même dommage, JR, que le gouvernement se comporte comme s'il était surpris par tout ce qui arrive. Surpris par le fait que le ciment importé coûte moins cher que le ciment local. Prendre des mesures de cette façon-là en cours d'exercice traduit le fait qu'on n'a pas pu intégrer dans le programme du gouvernement des données comme celle-là. Pourtant, nous savons que depuis plus d'une année, le ciment importé coûte moins cher que le ciment de local. Le gouvernement le sait, tout le monde le sait, depuis plus d'une année. Et aujourd'hui, comme si on se réveillait d'un sommeil, on dit, on prend des mesures, on va relever les taxes à l'importation du ciment, on prend des mesures de suspension d'importation du ciment, ça, c'est géré à la hâte, géré de façon précipitée, géré, comme tu dirais, au coup le coup. Alors que les choses devraient être intégrées dans le programme économique du gouvernement, dans la politique du gouvernement pour l'exercice 2016. J'avoue, je reconnais que la gestion et l'organisation de l'économie congolaise comportent beaucoup de pièges. Tellement de pièges qu'il est difficile aujourd'hui de savoir à quel régime économique nous appartenons effectivement. Est-ce que l'économie congolaise prône le libéralisme économique? Est-ce que nous prenons l'interventionnisme économique? Tout cela pose des problèmes d'identification de notre économie. Et quand vous regardez notre adhésion même presque précipité à l'OADA, à la CAC, à tous ces mécanismes qui préconisent ou qui créent un cadre pour l'existence d'un marché commun africain. On se dit pourquoi alors, en même temps qu'on marche vers le marché commun africain, pourquoi il y a encore la DGDA qui prend des mesures de limitation d'importation, pourquoi il y a l'État qui doit prendre encore de telles mesures protectionnistes, alors que le même État est en train de préconiser, par son comportement, par son adhésion à des organisations régionales, préconise le libéralisme économique. C'est ce que nous voyons. Mais aujourd'hui, vous vous comportez comme si le libéralisme économique en question constitue maintenant pour l'État congolais un danger permanent. C'est ça que signifie la mesure que le gouvernement vient de prendre. Nous devons savoir ce que nous voulons exactement. Nous sommes une économie piégée et j'ai toujours dit hier, sous l'antenne de Radio Capi et ailleurs, que nous avons d'abord un problème d'organisation de notre économie. Il faut d'abord organiser l'économie, la structurer, lui donner une identité avant de nous engager dans un mécanisme ou dans un autre, avant de nous engager dans une organisation ou dans une autre. Nous devons savoir quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces, même tout de savoir que lorsque nous avons commencé par nous organiser nous-mêmes, je reconnais que pour qu'une économie se développe, on a besoin d'une industrie locale viable. Et que pour créer une industrie locale viable, il faut partir d'abord d'un minimum de protectionnisme pour avoir une industrie organique. Je reconnais aussi que le ciment fait partie des produits stratégiques pour l'État congolais, pour l'économie congolaise. Le ciment comme le pétrole fait partie des produits stratégiques. Mais lorsque un État prend des mesures en ce qui concerne un produit à un autre, il devrait savoir est-ce que la situation actuelle profite à la population, oui ou non. Mais moi je dirais qu'aujourd'hui la baisse du ciment sur les tendus de la République démocratique, en particulier à Kinshasa, même si ailleurs est encore prochain, à Kamana ou à Kabinda, le ciment coûte $45 le sac, à Kinshasa il est autour de $10 aujourd'hui. Mais quand l'État congolais prend des mesures pour que le ciment importé revienne pratiquement ou remonte de prix, ça veut dire ce qu'il veut dire, il faut que le ciment importé remonte de prix. Parce que quand vous augmentez les taxes, il faut que ceux qui importent augmentent le prix de vente du ciment importé. Est-ce que cela profite à la population? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le gouvernement travaille pour la population ou est-ce qu'il travaille contre la population? Le but, c'est si aujourd'hui on laisse aujourd'hui aux Congolais, au marché congolais, on laisse à la silo aujourd'hui le marché du ciment. Vous allez vite voir qu'il y aura des pénuries en permanence. Nous l'avons vécu avec la silo. Tandis qu'il y avait la silo et la chimate, il y avait des pénuries en permanence de ciment. Nous avons connu le prix du sac à ciment. On a vu le ciment aussi monter jusqu'à $40 à Kinshasa. On l'a vu.
Oui, monsieur, est-ce que ce n'est pas là une façon de forcer quelqu'un à vivre malgré qu'il est vraiment dans un coma, dans un état comaté, parce que on sait tout de même que la Silo avait déjà menacé de fermer parce qu'il n'arrivait plus à faire concurrence.
C'est exact, hier. La Silo avait déjà menacé de fermer, la Silo avait même pratiquement fermé. Mais la Silo, je répète, aujourd'hui, vous avez pris une bonne image, une bonne métaphore. En fait, on oblige un cadavre de ressusciter et de continuer à faire son travail. Nous sommes en train de faire. La Silo, elle est morte. C'est ça la vérité. La Silo est incapable de tenir face à, de faire face à la concurrence. La Silo n'est pas, quelqu'un l'a dit, c'est pas Jean-Pierre de Wamba, la Silo n'est pas compétitive. En fait, il n'y a pas que la Silo qui n'est pas compétitive. Il faut dire que toute l'industrie locale congolaise n'est pas compétitive. Nous avons vu à un moment donné que on nous vendait la paire de caisses pour les enfants ici à $20, etc. Quand les chinois sont arrivés sur le marché congolais, le prix s'est baissé jusqu'à $2 à un moment donné. Le pain qui coûtait dans les $100, on a vu qu'avec la conférence de l'Asie, le pain a baissé de prix jusqu'à $5-10. On connaît ces situations-là parce que l'économie nationale n'est pas compétitive. Elle n'est pas compétitive à cause de quoi? À cause de la présence permanente d'énormes coûts de transaction. Et ça, quand il y a des coûts de transaction de ce genre-là, la priorité pour un gouvernement organisé, ce n'est pas de décréter le libéralisme économique. Parce que Prigogine dit que la connaissance va à raison, la connaissance va à raison inverse de la puissance. Le libéralisme économique suppose qu'il circule en permanence une information accessible à tout le monde, de telle sorte que chacun sachant où se trouve tel produit, où se trouve tel prix, on peut fonctionner de façon compétitive. Donc aujourd'hui, j'ai toujours répété que avec le copyright d'ailleurs qui nous a été mis sur la tête comme on dit à un peu près, j'ai toujours dit que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est le maximum d'interventionnisme. C'est mon point de vue. Mais cela ne peut exister que lorsque l'État lui-même est un État crédible, responsable, capable, un État qui travaille pour l'intérêt de la population. Un tel État est capable de prendre des mesures limitant les importations, limitant les exportations, pour renforcer le comportement de l'économie nationale. Ça peut se faire. La Chine l'a fait pendant des années. Le marché a été fermé à toutes les exportations et les importations. Ils ont réussi à s'organiser de l'intérieur, et une fois l'économie déjà solide, la Chine s'est ouverte au marché, aujourd'hui elle domine le marché mondial. Le Congo a l'avantage d'avoir la quasi-totalité d'éléments chimiques pour la création, la fabrication de tous les biens possibles, mais il faut que l'État soit capable de s'organiser pour donner à l'économie des infrastructures nécessaires. Je ne parle pas que des infrastructures énergétiques ou des routes et autres, je parle de l'énergie. je parle de l'industrie financière qu'il nous faut avoir dans ce pays. Je parle d'une, même d'une politique monétaire, d'une banque centrale capable de concevoir une politique monétaire en faveur justement du développement de l'économie nationale. Il faut avoir un système fiscal capable de comprendre qu'il faut que l'économie se développe et à quel impôt il faut appliquer et lequel il ne faut pas. Voilà les deux de qui est
oui. Une dernière question avant de rouvrir encore le standard. Est-ce que cette affaire n'aura-t-elle pas un impact négatif sur notre adhésion au libre-échange, parce que nous avons adhéré, vous l'avez cité, au CAC, à l'OADA, au COMESA et à tant d'autres organismes internationaux. Voilà, donc est-ce qu'il n'y aura pas un impact négatif sur le libre-échange?
Justement, c'est un pas en avant, trois pas en arrière. Cela traduit le fait que le gouvernement s'engage sans réfléchir. Il s'engage à des structures d'organisation dont il ne comprend même pas le mécanisme en réalité. C'est ça, je suis un peu trop sévère, mais c'est la réalité. Parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, dans la mesure où nous avons déjà pris l'engagement d'avancer, où nous avons confié à nous, l'État congolais, la responsabilité de certaines de ces structures-là, la situation, nous l'avons dirigée, le commerce, on a dirigé. Mais là, ce n'est pas un bon signe pour un État comme celui-ci de prendre des mesures de protectionnisme. C'est vraiment trois pas en arrière après avoir fait un pas en avant. Ça donne une mauvaise impression. Même ça, c'est un mauvais message que nous envoyons au monde entier pour dire que nous ne sommes pas organisés, que nous ne comprenons pas, nous n'avons pas anticipé les choses. Il est important, en fait, on dit gérer, c'est prévoir. Il est important que le gouvernement lise correctement les paramètres qui sont sur le terrain et qu'il puisse, dès le début, à chaque début de l'année, intégrer tous les paramètres dans sa politique de l'année et qu'on sache que voilà. Il y a un problème qui peut survenir du fait que le ciment importé coûte moins cher que le ciment local. Et quelles mesures il faut prendre à ce moment-là? Mais ce ne sont pas, c'est pas les mécanismes protectionnistes qu'il faut voir tout d'un coup comme ça, alors que nous ne sommes pas une économie interventionniste. Donc il est important que le gouvernement sache d'abord exactement ce qu'il veut, et pour qu'il le sache correctement, il est bon qu'il mette en place des structures efficaces et du côté et de la politique monétaire et de la politique budgétaire.
Voilà.
Ou le système fiscal. Ce sont les deux pays qui vont se faire de tous les États du monde pour faire la progression de leurs économies et avancer.
Voilà,
une fois que la cela mise en place, on est capable d'avancer.
Merci. Michel Somoyeau, vous gardez encore en ligne. Nous informons donc à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que vous intervenez depuis les États-Unis et vous êtes notre invité, expert en économie. Omar est à Kinshasa. Omar, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Gilles Longuembo et bonjour à tous les auditeurs.
Quel est votre avis? Après avoir suivi vos prédécesseurs et aussi suivi notre invité qui venait tout à l'heure de brosser un peu, disons, le vrai problème aujourd'hui de notre économie qui repose sur l'absence de l'identification de notre économie. Donc, il y a ce problème d'une économie piégée.
Merci beaucoup Gilles. Merci aussi l'intervention pertinente de M. Soumoué. La première précision que j'ai à faire, c'est que, à préciser devant tous, que notre économie est de nature libérale. Et nous sommes régis en domaine des prix par l'ordonnance loi de 61, qui donne la liberté aux opérateurs économiques de fixer librement le prix. Mais cela doit tenir compte des marges bénéficiaires fixées par les moniteurs de l'économie. Donc, ce qui voudrait dire que chaque opérateur économique futur établit a la liberté de fixer les prix à condition qu'il se réfère aux limites marge bénéficiaire. Et deux, l'État ne peut fixer les prix par rapport aux produits stratégiques tels que l'eau, l'électricité et les autres. Deuxième question à faire, c'est que cette décision JR me paraît complexe. Elle est vraiment mitigée. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? C'est là que j'ai un peu de débat avec M. Soumoué pour dire que notre économie est gérée par l'interventionnisme étatique. Ça veut simplement dire que, depuis un moment, l'État a cessé d'être gendarme. Il doit intervenir dans les domaines économiques pour réglementer. Du point de vue de l'interventionnisme étatique, JR, je pense que cette décision est justifiée par les soucis de gérer un domaine économique qui est en crise. Mais là où les bas blessent, du point de vue social, cette décision me paraît illogique dans la mesure où elle ne se conforme pas à la réalité que vivent les Congolais. Et en fait, ce que je dis comme le professeur économiste a tellement dit, l'interventionnisme étatique n'a de sens que s'il tient compte de l'intérêt populaire, à savoir la population. Moi, je pense, contrairement à M. Soumoué, que nous avons une économie qui est bien définie, à savoir l'interventionnisme étatique. Lorsque l'État intervient dans le domaine économique, ça soit l'État, il le fait sous des segments, soit comme entrepreneur, en créant des entreprises, soit comme régulateur, en mettant en place des règles pour réglementer l'économie. En ce sens, ça fait juste. Mais là où nous appelons l'État, c'est pour dire qu'on vous invite à intervenir tel que votre rôle prépondérant, mais vous devez le souci de protéger les peuples congolais qui patauge d'ailleurs dans la misère. Moi, je pense aussi, comme le débat relance l'industrie locale, la vraie promotion de l'industrie locale ne passe pas par de telles décisions. Quoi qui torpille la liberté des citoyens? ça passe plutôt par la production locale. Nous avons des cimenteries, nous avons des entreprises publiques, mais il faut se demander comment elles fonctionnent, avec quels moyens. Comment voulez-vous interdire aux gens qui aident les Congolais aussi longtemps que vous ne savez pas vous-même produire? La vraie promotion de l'industrie passe par la production locale. L'État doit accorder à la SINAC des moyens, à la CIL ou des moyens, et aux opérateurs privés congolais des moyens pour bien produire au niveau local pour que la concurrence soit profitable au peuple congolais. Les deux, comme l'a dit Maître Adrien, même les entreprises publiques aujourd'hui paient des taxes. Il faut voir dans quelles conditions travaille la CILO. Avec des arrivées.
Omar, je crois que c'est cela la préoccupation. Est-ce qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires de CILO peut répondre réellement à construire un plan de sauvetage aujourd'hui pour faire concurrence disons, avec d'autres importateurs?
J'ai juste forcé. Et le plus important, ce n'est pas de dire que Silou a fixé des prix exorbitants, mais il faut plutôt savoir pourquoi ces prix ont été fixés. C'est par rapport au chiffre d'affaires. Dans quelles conditions il fabrique les ciments locaux? Avec quels moyens, avec quel chiffre d'affaires? Et que voulez-vous qu'ils fassent? Pour récupérer l'argent qu'ils ont, ils doivent augmenter les prix. Et vous devez le savoir, j'ai que les entreprises publiques ou les entreprises mixtes travaillent sous forme d'autonomie. L'État n'intervient que pour réglementer. Ils sont indépendants, ces gestionnaires des entreprises publiques. Alors, lorsqu'ils produisent avec un chiffre d'affaires faible, avec des arriérés, des gens qui ne sont pas payés, avec des moyens archaïques, que voulez-vous qu'ils fassent? Ils n'ont pas d'autre choix que d'élever les prix pour qu'ils puissent récupérer et générer l'argent.
Mais est-ce que ce n'est pas une façon, cette décision ne vient-elle pas peut-être arrêter cette hémorragie de la fraude au niveau de nos frontières qui sont directes poreuses?
Oui, il y a aussi un problème géant de contrôle des prix. Il ne faut pas se limiter à mettre en place un secteur économique, il faut contrôler. Il y a tellement une fraude aussi, nous ne refusons pas. Mais le vrai moyen passera par unir ceux qui mettent des prix exorbitants. La loi voudrait que lorsqu'on fixe un prix, même s'il y a libéralisme, qu'on puisse tenir compte des marges bénéficiaires. C'est vrai. De notre côté aussi, il y a une certaine fraude au niveau de la DGDA, la DGDA est salutaire, mais les vrais problèmes passent par la production locale qui doit être soutenue, par la suppression des taxes qui défavorisent les entrepreneurs au niveau local, et aussi par les contrôles des prix et par les contrôles des barrières. Je pense qu'en faisant cela, en punissant ceux qui fraudent, on aura quand même fait merveille ici pour aider à prendre des décisions qui torpillent la liberté des Congolais.
Merci beaucoup, Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. On prend Jacques qui est à Calédonie. Jacques, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Quel est votre avis?
Ah, moi, à mon avis, je crois que ça, c'est une responsabilité des États congolais qui n'encouragent pas les entreprises locaux. Je prends l'exemple ici à Calédonie. Nous avons le cimenterie de Kabimba qui est à 60 km de Calédonie. Imaginez-vous ici à Calédonie, le ciment coûte à peu près $15. Alors que de l'autre côté de la Tanzanie, tout près ici, le ciment varie à 5 dollars. Bon, comment expliquer ce phénomène? Quelqu'un qui, au lieu d'acheter le ciment ici sur place, il préfère aller en Tanzanie, à Dar es Salaam, à peu près 1000 km, pour amener le ciment ici. Alors, ce qui est important, c'est l'État. L'État doit revoir les taxes. Il faut se demander, puisque nous, on est des commerçants, qu'est-ce qui nous attire? Ce qui attire les commerçants, c'est le prix. Prenons l'exemple typique. Supposons que ici, à Calédonie, on mettait le ciment à $5. Qui ira en Tanzanie chercher le ciment? Je ne crois pas que personne aura le temps d'aller de l'autre côté de la frontière pour importer le ciment ici. Puisque le prix, d'abord, le prix douanier doit le couper trop cher et il sera toujours obligé de s'approvisionner ici sur place. En dehors de cela, je vais vous donner un autre exemple typique, puisque je viens de Lubumbashi. Prenons le cas de sucré, Coca-Cola 50 centilitres. À partir de Lubumbashi, une farde de 12 pièces coûte 8500 francs congolais. Alors que si vous achetez le même farde de sucré à partir de la Tanzanie, rendu jusqu'à Lubumbashi, tous les frais douaniers compris, ça arrive jusqu'à 6 000 francs congolais. Comment expliquer? Alors que ces produits sont produits sur place ici, ce sont des produits locaux. Moi, je crois que le grand problème, c'est notre gouvernement qui doit tout faire pour encourager les entreprises locaux. Encourager, c'est-à-dire supprimer la multitude de taxes qu'on les impose pour qu'ils soient à la hauteur
de la concurrence.
C'est moi, à mon avis, je sais que je vais faire un problème de prix. C'est ce qui pousse les gens à aller chercher ces produits-là à l'extérieur. C'est le prix, si on mettait le même prix, je ne crois pas qu'une personne aura le courage d'aller importer les produits à l'étranger.
Est-ce que, parce que vous avez parlé de quelques principes, est-ce que au niveau du libéralisme économique, on peut avoir le même prix, en fait, les importateurs proposeront donc le même prix partout?
Bon, les grands problèmes, je vous ai bien dit, moi je vous parle en qualité de commerçant.
Oui.
Qu'est-ce que, ce qui nous attire, c'est le prix. Si je fais le calcul, je prends par exemple de l'autre côté de la Tanzanie, le ciment coûte 5 dollars. Avec le frais douanier, je vais le rendre ici à Calémy à 10 dollars. En vendant, j'ai 5 dollars de bénéfice. J'irai là-bas, au lieu d'acheter ici à Kabima, qui est à 60 km de Calémy, là, par exemple, on me donne à 13 dollars. J'irai là-bas, quand bien même que c'est loin, j'irai là-bas, je paye toutes les taxes pour moi, c'est le bénéfice.
Malgré les coûts de transport, vous préférez aller là-bas,
non.
Voilà.
Oui. Ce qui nous sommes des commerçants, ce qui nous intéresse, c'est le bénéfice, la distance, le prix douanier, après tous les calculs. Je vais donner l'exemple des boissons sucrées. Rendu à Lubumbashi, de Dar es Salaam jusqu'à Lubumbashi, nous rendons cette part-là à 6 000 francs. Alors que les mêmes parts de sucre qui est produit sur place, Bralima, Lubumbashi, il nous vend au prix de gros à 8 500 francs. Dis-moi maintenant, moi je suis commerçant, j'irai où? Alors que c'est le même produit.
Merci beaucoup, Jacques.
Le grand problème, c'est l'État qui doit réduire l'État. Nous avons l'entreprise qui, Saint-Esquine, qui a fermé. Pourquoi? Puisque lui qui produisait dans ce plan, c'était trop cher par rapport aux pain importés de Dubaï, de la Chine, on portait c'était moins cher par rapport aux pain qui imprimait sur place. Alors, raison pour laquelle il a fermé les portes et les conséquences, c'est le chômage. Alors que nous avons le plus élevé du chômage, et si aujourd'hui la Chine ferme, c'est aussi un autre problème de chômage.
Voilà. Merci beaucoup.
À mon avis, je crois que c'est la responsabilité de l'État. Le grand problème, ce n'est pas l'interdiction d'importation de ciment. La question qui se pose, posez-vous la question de savoir pourquoi ces gens-là importent le ciment alors que nous avons le ciment qui est produit sur place. C'est ça la question très importante que nous devons nous poser.
Merci.
En cherchant à trouver des...
Merci beaucoup, Jacques, d'avoir appelé de Calémy et surtout d'avoir fait ce témoignage. On va prendre Kilma, qui est à Bandundouville. Kilma, bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Merci pour avoir accordé cette parole. Je voulais directement dire, vous savez, dans ce pays, on parle je ne sais pas si nos dirigeants savent c'est quoi le social. On a parlé du ciment. Le ciment qui vient à l'étranger, c'est moins cher par rapport au ciment qui est localement. Et même si vous sentez la qualité, c'est tout à fait différent. Mais le problème, c'est quoi? Notre gouvernement veut être sur le son compteur. On ne sait pas. On s'est engagé il n'y a pas assez longtemps. On a parlé de commerçants ici. C'était pour de supprimer des barrières. C'est bien, je pense. Mais qu'est-ce qui pousse encore aujourd'hui toute autorité à chercher à augmenter encore le prix de la douane pour que l'estimat devienne encore de plus en plus cher? Et surtout, quand vous voyez, c'est ça à décourager ceux qui importent l'estimat. Parce que même avec le marché congolais aujourd'hui, la consommation est devenue vraiment grande. Est-ce que notre estimaterie est capable de répondre aux besoins du marché? À lui seul seulement.
Voilà, merci beaucoup Kilma d'avoir appelé de Bandundouville, 081-890-6315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des hommes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un geste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de la Tunisie sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous retrouvons Michel Fomoué qui est en ligne. Michel Fomoué, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Alors, voilà, on craignait que, qu'on puisse vous perdre un peu en ligne. Voilà, alors Michel, vous venez de suivre cette deuxième série des auditeurs. Quelle est votre réaction?
Non, je trouve les interventions de mes compatriotes très pertinentes. Et j'ai noté notamment l'intervention de mon ami Omar qui dit qu'il n'est pas d'accord avec moi. Donc, je dis que l'économie congolaise n'a pas d'identité. Je dis que l'économie congolaise, elle est une économie interventionniste d'un côté. De l'autre côté, il a encore dit lui-même, il a évoqué une ordonnance loi selon laquelle l'économie congolaise est une économie libérale. C'est lui-même qui le dit, c'est lui qui dit notre régime est connu, voici la loi. La loi dit vous êtes libéral, et puis après il dit nous savons que nous sommes interventionnistes. C'est pas très grave. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je l'ai dit tout à l'heure hier, je suis dans les circonstances actuelles en faveur de l'interventionnisme de l'État. Mais ce que l'État congolais fait là, ce qu'il vient de faire là, ce n'est pas de l'interventionnisme, c'est de l'imposture. Il faut faire des choses, faire la part des choses. L'interventionnisme suppose que l'État intervienne dans l'économie pour le bien de la population, pour le social. Dans le cas d'espèce, ce que l'État congolais aurait dû faire, à mon humble avis, ce n'est pas d'interdire l'importation du ciment, parce que le ciment n'est pas une matière toxique qui vient empoisonner l'économie nationale. Le ciment importé vient justement pour répondre aux besoins de la population dont le pouvoir d'achat est trop faible et qui a besoin de produits meilleurs marchés. Et pas que le ciment coûte 1 dollar ailleurs, mais qu'est-ce que vous reprochez à celui qui vient vous le vendre à un prix plus ou moins réel, plus ou moins proche de la réalité? Mais et que l'État dise il faut laisser si nous, avec ses incompétences, monter le prix comme bon lui semble. Non, l'État congolais, dans une bonne politique interventionniste, ce qu'il aurait dû faire, c'est subventionner si nous. Venez à si nous des subventions qui lui permettent d'alléger les coûts de transaction, les coûts de production, et donc d'être compétitif sur le marché. C'est ce qu'il aurait dû faire. Et non pas bloquer le ciment qui fait du bien à la population. Ça, c'est un problème. Vous avez suivi très bien Jacques dans son intervention. Il dit qu'il est commerçant et il a raison. Il dit que nous, les commerçants, tout comme nous, les consommateurs aussi, ce qui nous attire, c'est le bas prix, le bon prix. Le commerçant cherche le profit. Nous cherchons la satisfaction de nos besoins. Mm-hmm. Tout le monde, tout agent économique a besoin des moindres prix pour faire le meilleur profit ou pour la meilleure satisfaction de ses besoins. C'est ça qu'on fait. Mais ce que l'État congolais est en train de faire, il a fait de militer pour l'augmentation des prix et pour donc l'étranglement de la population. C'est ce que vous avez appris tout à l'heure, l'interventionnisme suicidaire. C'est ce que l'État est en train de faire. Moi, j'appelle ça de l'imposture. Ça, ce n'est pas de l'interventionnisme. Il faut avoir un peu d'intelligence dans la politique économique.
Pour je crois que, Michel, il est quand même important de signaler à tous ceux qui nous suivent maintenant, cette option n'a pas encore été levée définitivement, dans la mesure où, c'est vrai, bon, l'État ou le gouvernement congolais a pris juste en compte les recommandations de la commission économique, financière et de reconstruction, voire la commission tarifaire d'ailleurs de la DGDA qui a siégé la matière, et dont le ministre de l'économie a fait part lors de la réunion de la Troïka, la toute dernière donc hier. Maintenant on attend, cette question sera soumise au Conseil des ministres et c'est à ce moment-là qu'on pourrait prendre des décisions finales. Donc cette émission nous la faisons par rapport à la délié ou la commission tarifaire qui a été organisée par la DGDA. Et là maintenant le gouvernement vient prendre en compte quelques recommandations et nous disons que nous sommes déjà vers la suspension momentanément de l'importation du ciment gris, des barres de fer et du sucre. Ben alors, what and see. Mais nous vous gardons toujours en ligne, Michel Fomoué, pour encore beaucoup plus d'éclairage par rapport à cette thématique. Matabaro et Kabuka vous nous a rejoint et Madame Joséphine qui est également à Boston. Matabaro, bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur J.R. Moi je suis à Bukavu.
Voilà,
je regrette vraiment la décision de notre gouvernement parce que ce n'est pas une décision qui favorise la population. Nous, à Bukavu, à 50 km de Bukavu, nous avons la cimenterie de Katana, qui est incapable de nous produire du ciment gris. Pendant plusieurs années, la population a été obligée d'attendre le ciment qui venait de Kadima, dans la province de Tanganyika.
Effectivement, là, c'est très cher ici à Bukavu. Et jusqu'à présent, je pense que c'est le ciment le plus cher à Bukavu. Nous avons du ciment qui nous vient du Rwanda, qui coûte actuellement 15 dollars. Il y a du ciment qui vient de l'Ouganda, qui coûte actuellement 16 dollars. Mais on ne comprend pas comment, on ne comprend pas que le ciment qui nous vient, qui est produit chez nous au Congo, puisse coûter plus cher que le ciment qui nous est importé. Et à un certain moment, j'ai vécu à Calémie. Pour acheter du ciment, il fallait verser de l'argent un mois en avance. Donc, on servait le consommateur pendant, on servait les acheteurs un mois après qu'ils aient payé qu'ils aient déposé l'argent. Et pendant ce temps, les chantiers stoppaient. Parce que seulement la cimenterie de Kabinda était incapable de satisfaire la demande. Alors, si aujourd'hui la population recourt, les distributeurs de ciment recourent au ciment importé de l'étranger, c'est parce que non seulement nos cimenteries sont incapables de satisfaire la demande dans le marché, mais en plus, ils sont plus chers. Donc, là, il y a deux faiblesses qui sont comblées par l'importation du ciment, à savoir le prix et la disponibilité du ciment. Moi, je pense que cette démarche de l'État de chercher à interdire l'importation du ciment, ne va pas apporter une solution parce que les chantiers qui sont à Bukavu, à Uvira, à Goma, je pense que ces chantiers ont besoin du ciment en permanence et les besoins ne peuvent pas être satisfaits par la production locale. Et en plus, cette pratique va seulement encourager la fraude et le trafic d'influence parce que avoir les chantiers qui sont actuellement en marche à Bukavu, à Uvira, à Goma et dans d'autres sites intermédiaires, moi je pense que le gouvernement devait réfléchir pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt du développement et pour l'intérêt du développement de l'économie du pays. Merci beaucoup, monsieur. C'est ça ma contribution que je voudrais apporter à ce que tous les autres ont dit, qui sont quand même très importants. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Matabaro. Madame Joséphine, vous êtes à Boston, bonjour.
Bonjour, Radio Capia. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Moi, d'emblée, je vais passer aux résolutions. Monsieur Michel Somoy l'a dit, l'État doit subventionner les entreprises. Peut-être quand l'État entend le mot subventionner, il croit qu'il va donner l'argent aux entreprises. Mais non, on peut subventionner. L'État peut subventionner les entreprises tout en réduisant le taxe sur la production et la vente locale. Hein, et puis augmenter les taxes à l'importation. Le cas du ciment, l'État peut faire aussi comme le président Kabila, Laurent Désiré Kabila l'a fait dans son temps. Il a exonéré les taxes sur l'importation des véhicules. Il a dit tout véhicule qui sera importé, on ne va pas payer les taxes. Et puis on a vu que le prix des véhicules sur place, surtout à Lubumbashi, ont été réduits. Alors j'ai demandé à notre gouvernement, nous qui faisons le petit business sur place.
Voilà, on a discuté avec la ligne de Madame Joséphine. Voilà, merci. Alors Michel, on revient à vous. Est-ce que vous avez d'abord une réaction à tout par rapport à ces dernières interventions?
Oui, tout d'abord, votre précision et les détails, je voudrais vous remercier de la précision. Donc, ce n'est pas encore les yeux qui est coulé sous la forme exécutoire. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, en considérant que la mesure était déjà prise, devrait être prise plutôt pour une contribution à la réflexion en cours. Parce que l'État, donc l'option, elle est là. J'ai compris que c'est une commission qui a travaillé et qui a soumis ses conclusions à l'État en orientant l'action de l'État dans ce sens-là. Alors voilà, nous aussi, on intervient pour dire à l'État, il y a pas, ça sera de l'imposture. Ce n'est pas une bonne orientation. Madame Joséphine vient de vous donner une, une définition de ça, et pour ce qui concerne l'interventionnisme, pour ce qui concerne la subvention. Je pense que c'est la moindre des choses. Mais tout en sachant aussi que notre État a des difficultés sur le plan budgétaire, même si nous avons la croissance infinie. Mais nous avons tous des problèmes pour trouver les recettes nécessaires et l'argent nécessaire pour subventionner l'entreprise locale. Mais ce que je voulais dire avec insistance, c'est que nous devons, je répète ce que j'ai toujours demandé, nous devons être capables de structurer notre économie, de l'organiser, afin de lui donner effectivement une identité. Nous ne l'avons pas encore fait. Les enjeux de la mondialisation, qu'a relevé notamment le premier intervenant, je pense que c'était Jean-Pierre de plus en bas, ces enjeux nous invitent à plus d'intelligence, à plus d'organisation, à plus de structuration de notre économie. On ne doit pas continuer à fonctionner avec une économie en vrac. Ce n'est pas normal. Notre économie ressemble à une masse, comme à un ensemble de masses éparpillées. Et aujourd'hui, il y a un tel phénomène qui arrive, on prend une mesure qui le concerne. Un tel phénomène arrive demain, une telle mesure le concerne. Non. Il faut une économie qui a des interconnexions, qui a des interrelations. Une économie qui soit lisible et prévisible. Ce n'est pas encore le cas. On ne peut pas, un État qui gouverne, ne peut pas prendre comme ça des mesures, comment je peux dire, intempestives. À tout moment, aujourd'hui, on prend une telle mesure, demain une telle autre, après demain une telle autre, concernant chaque point. On ne s'en sortira pas. Il faut un programme cohérent, bien élaboré, anticipant tout ce qui pouvait arriver, comme ça on peut évoluer. Moi, je pense que nous avons beaucoup de chances d'avoir une économie aussi riche potentiellement que l'économie congolaise, je le reconnais, mais il manque à l'économie congolaise de bons stratèges. Il faut un gouvernement qui applique des mesures stratégiques importantes pour pouvoir avancer. Encore une fois, je reviens à ce que je disais, à mon humble avis, ce que le Congolais doit faire dans le cas d'espèce, ce n'est pas d'interdire les importations ou de les suspendre, le ciment, parce que ce ciment importé nous fait du bien, beaucoup de bien à la population. Le ciment importé à moins de prix a favorisé l'éclosion de l'immobilier. Vous voyez comment les immeubles et les maisons poussent à tout à fait à travers le pays. C'est ce qu'il faut encourager. On dit en économie, quand l'immeuble va, tout va. Alors, si l'État aujourd'hui cache cet élan, je crois qu'il sera à lui-même un mauvais service. À moins qu'il cherche à punir la population.
Est-ce que Michel, vous pensez, vous estimez comme les autres, que une fois que l'option sera levée dans le sens de la suspension à un moment donné de l'importation du ciment gris, il va falloir quand même qu'on puisse revoir aussi la loi à la matière?
Pas que la loi. Il faut, si une telle décision a été prise, je ne le souhaite vraiment pas. Je prie Dieu que ça n'arrive pas ainsi. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut même pas qu'elle soit prise. Prenons ce point de vue. C'est positif. Il ne faut pas qu'elle soit prise. Mais alors, maintenant, en ce qui concerne la loi, l'économie, en fait, l'organisation de l'économie n'est pas forcément le sujet d'une loi particulière. Qu'on dise que nous sommes une économie libérale, alors qu'on fait l'interventionnisme et plus, qu'on dise qu'on est une économie interventionniste, alors qu'on applique le libéralisme et plus, ça n'a pas d'importance. Ce sont des noms. Le plus important, c'est comment fonctionne notre économie, comment est-elle organisée, comment sont interreliées les différentes variables de notre économie. C'est ça qu'il faut pouvoir mettre en place. Il faut une réflexion sérieuse pour ça. Il faut identifier nos forces, identifier nos faiblesses, et ainsi nous donner l'image de ce qui conduit à l'économie nationale congolaise. C'est ça que moi je pense. Je suis obligé que le Congo est privé d'une économie nationale au départ, parce que l'économie tout entière est dépossédée par des puissances étrangères, dépossédée par des forces étrangères ou d'intérêts locaux. Et c'est comme ça que tous les secteurs de l'activité économique au Congo sont dominés par l'étranger, sont dominés par le secteur extérieur, comme on l'appelle. C'est pas normal.
Voilà, si vous me permettez, dans une minute, on va prendre Christian. Christian, vous êtes à Bounia. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour.
Quel est votre avis?
Mon avis est que souvent, le gouvernement congolais prend des décisions toujours impopulaires. Et je ne sais pas s'il travaille au profit de son peuple ou au profit des tiers. À titre d'exemple, dernièrement, quand les prix des barils de pétrole a baissé sur le plan international, au Congo, nous n'avons pas vu la baisse des prix. Mais aujourd'hui, il y a pas de problème au niveau de la filou. Il intervient vite pour tenter de rehausser les prix. Qui en sera bénéficiaire et qui en sera victime? Je crois que la victime principale, c'est la population qui, aujourd'hui, commence à se battre pour construire une petite chose, en fait, d'envisager une avenue meilleure pour sa famille. Et voilà, il va se retrouver bloqué parce que les prix a haussé, parce qu'on peut le dire. Et qui va bénéficier? Je crois que les pays frontaliers sont là. Eux aussi produisent, disons, leur politique. Quand nous haussons chez nous, c'est-à-dire qu'ils gardent leur prix et ça favorise maintenant la fraude.
Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christian. Alors, on revient à vous pour terminer, Michel Fomoy. Qu'est-ce qu'on peut retenir en une phrase?
L'État congolais ne doit pas subir des chantages d'une entreprise comme Silo, qui du reste est une entreprise que je sache qui est privée, parce qu'elle a été rachetée par un privé. Ce n'est pas pour l'État congolais ne doit pas subir la volonté d'un privé qui a besoin de faire ses bénéfices au détriment de la concurrence. L'État congolais doit rester juste, venir au milieu du village et voir l'intérêt de la population, de quel côté elle se trouve. Pas auprès d'un opérateur économique qui a besoin de ses avantages personnels. C'est pas correct. Donc, tu peux dire la même chose.
Voilà. Merci beaucoup, Michel Somoué. Nous signalons que vous intervenez depuis les États-Unis où vous séjournez maintenant. Et nous vous remercions pour votre disponibilité, parce que c'est ce matin que nous vous avons eu, l'invité qui était prévu, en tout cas pour les comptes de la DGDA, pour apporter quelques éclairages, a connu un petit problème, un petit souci, voilà, de santé. Cela ne nous a pas permis d'entrer en contact. Mais une fois encore, merci de votre promptitude avec laquelle vous avez accepté notre invitation, malgré que vous êtes très très loin du pays. Merci Michel et à très bientôt.
Merci Pierre.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui avez participé à ce débat. Le débat continue sur notre page Facebook des paroles aux auditeurs. Nous prenons rendez-vous avec vous demain, mais nous nous permettons quand même de dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Dieudonné Nyangas a été à la mise en onde. Pierre Lamégé à la réalisation. Gilly Fezabongonda a inspiré les standards. Et Jérôme Nguyenboy a le plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision de Martin Sébouzangé. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur vos quatre.